Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, Botticelli proteste. C'était dans un très vieux cimetière, devenu un merveilleux jardin. Rien n'y parlait plus de la mort. Tout y chantait, y célébrait la vie, une vie édénique et désordonnée, qui montait du sol engraissé, où tant de charognes humaines, tant de pourritures accumulées, entretenaient d'inépuisables réserves de fécondité, et, sans cesse, activait le mystérieux travail des résurrections organiques. La terre était douce, moelleuse et chaude aux pieds, comme un tapis, et son odeur puissante, phosphorique, comme celle de la chair en amour. Et je marchais parmi des roses blanches, des roses jaunes, des roses orangées, des roses rouges, des roses étrangement noires, des roses qui rampaient sur le sol, qui grimpaient aux stèles de pierre, aux colonnes de marbre, des roses qui retombaient du haut des calvaires de bronze, du haut des vieux arbres morts, d'avoir été étouffés par leurs enlacements. Par-delà ces roses et ces roses, l'atmosphère pulvérulente s'étoilait à l'infini de clématites vagabondes et de voltigeantes atragènes, et très loin, au-dessus des arundes argentées, des bambous noirs et des hibiscus aux coupes pleines de sang, les hypomées et les lophospermes dessinant des guirlandes, des arceaux, des ogives, des rosaces, agitaient doucement leurs clochettes blanches, mauves et pourprées. Dans les intervalles de ces ruissellements de roses, de ces retombées, de ces cascades, de ces cataractes de roses, entre les bambous, les arundes et les hibiscus, sur les fonds aériens fleuris de clématites et d'hypomées, d'énormes héliantes tournoyaient, les uns tout jaunes, pareils à des astres fous, les autres, œils verts et longs pétales fourchus, pareils à des oiseaux mythiques qui se crêtaient de colère. Et l'on sentait que ce jardin merveilleux ne devait pas finir et qu'il emplissait, de son immensité florale, toute la terre. Depuis 5 jours que je marchais dans ce très vieux cimetière, devenu ce merveilleux jardin, où les tombes, les caveaux, les statues, les colonnades et les croix disparaissaient sous l'envahissement joyeux des roses, je n'y avais rencontré d'autres êtres vivants que des scarabées aux corselets d'étincelant métal, et des chenilles velues roulées au cœur des roses, ainsi que des chats qui, boules soyeuses, dorment voluptueusement enfoncés en leurs coussins de satin. Nulle part, nulle trace par quoi se révélât à moi la présence coutumière ou même le passage fortuit d'aucun être humain. Dans les sentiers où je cheminais, grisé par l'odeur des terreaux et des pollens, pas un petit gramen, pas une drave sauvage n'avait été foulée. Et, sur les branches balancées des rosiers, les oiseaux, confiants, sans peur, me regardaient passer, ignorant ce que c'est que l'homme, ce que c'est que l'horreur d'être un homme. Tout à coup, au détour d'un sentier, dans une allée infinie, sur un banc de pierre immémorialement moussu, j'aperçus un homme assis et qui semblait bien triste et bien las. D'où venait-il? D'où venais-je moi-même? Et quelle étoile magique nous avait conduit vers ce jardin? Hélas, je n'en savais rien. Caché derrière une touffe de roses, je l'examinais. Sans doute, il n'appartenait point à notre pays, ni même à notre temps, car il était vêtu d'un pourpoint de velours groseille très fané et d'un grand manteau brun, troué en dentelle par d'industrieuses mites. Ses chausses n'étaient plus que des vrilles molles. Une toque en forme de cône tronqué s'affaissait sur sa chevelure longue, plate et toute blanche. Et son visage avait ce recul de lividité brouillée, cette pâleur de lointain lunaire qu'ont les visages probables des fantômes. De la pointe de son bâton, il dessinait sur l'herbe de vagues images que la brise aussitôt effaçait. Je ne m'étonnais pas plus de la présence de cet homme que de la mienne en ce jardin dont il était, peut-être, après tout, le séculaire et vénérable gardien. Mais non, il était bien trop fatigué et trop maigre pour être le gardien de quelque chose, et ses souliers de peau fauve, crevés, éculés, disaient qu'il arrivait de loin et qu'il avait beaucoup marché. Comme je m'approchais du banc, l'inconnu, m'entendant venir, leva sur moi un regard timide et suppliant, un regard où il y avait tant de douleur que, pris d'une pitié soudaine, je m'assis près de lui et que je lui demandai « Tu sembles bien malheureux. »«
Hélas, répondit-il, on ne peut pas s'en douter.
Puis-je quelque chose pour toi ? » ?»«
Je ne sais pas, je ne sais pas,
je ne sais plus rien. » Sa voix était très faible, un peu sifflante. Je lui demandai encore « As-tu soif ? » Je connais l'endroit où sont les fontaines. Elles ont le goût des roses qui se reflètent dans la pureté de leur eau. Veux-tu que je t'y mène ?
Non, ce n'est pas cela. Je n'ai pas soif. Du moins, je n'ai pas soif de ce que tu penses.
Oh, tu es étrange.
Je suis méfiant. Et ce n'est pas ma faute.
Ah, si tu savais.
Parle donc, parle sans crainte. « Qui que tu sois, je suis ton ami. »«
Mon ami ? Comment peux-tu dire cela, puisque tu ne me connais pas ?
Je suis l'ami de la douleur qui pleure en tes yeux. »
J'avais prononcé ces mots avec une emphase rythmique, comme si j'eusse récité des vers. L'étranger secoua la tête tristement, et il dit, d'une voix de calme reproche,
« Littérature, littérature. » Toujours de la littérature.
Un silence de quelques minutes s'établit entre nous. Sous les roses, on entendait battre le pouls de la terre. Les grands soleils nous fixaient de leur œil vert comme des idoles au masque d'or. Et c'était, autour de nous, des cliquetis dentaires, des ronflements d'élytres. Je regardais des nécrophores qui, près de moi, dans l'herbe, convoyait le cadavre d'une musaraigne, et je me sentis vexé de ce que ce bizarre et pourtant sympathique inconnu put douter du tendre et généreux apitoiement qui m'avait poussé vers lui. Je me levai et, sèchement,
« Puisque tu ne veux rien de moi, déclarai-je,
puisque tu me prends pour je ne sais qui, il faut donc que je te laisse. Adieu. »«
Oh, ne te fâche pas !» répliqua vivement le vieillard en me retenant par la main.
« Si mes paroles t'ont blessé, oublie-les. Tu ne peux pas savoir. Et maintenant, veux-tu me remettre dans ma route, car je me suis égaré en ce prodigieux jardin ?
Où vas-tu ?
Je ne sais. Et vraiment, il n'importe guère, pourvu que j'aille quelque part. Je vais devant moi, jusqu'à ce que j'aie rencontré quelqu'un à qui je puisse parler et qui veuille bien m'entendre, mais il n'y a personne. J'ai marché, mais il n'y a personne. Il n'y a que des roses. Il faut pourtant que je parle à quelqu'un, car vois-tu, j'en ai trop gros sur le cœur.
Ah oui, j'en ai trop gros sur le cœur.
Mais qui donc es-tu ? Et toi-même ?
« Soit, je veux bien te le dire. Interroge-moi. »«
Es-tu Gabriel Mouret ?»«
Non. » »«
Ou de Barque de Bouddeville ?»«
Non plus. » »«
Ou le jeune monsieur Monnier de la Cizerane ?»« pas davantage. Serais-tu le prince de Polignac? Oh, Camille Mauclerc, peut-être? Je n'ai point tant de génie. As-tu fait des œuvres de Ruskin ton livre de prière? Non, certes, je ne sais pas l'anglais. Alors, tu es abonné à la Boudinière? Non, non. Oh Dieu, non! Couches-tu dans les lits de Maurice Denis? Horreur! Tes amis s'habillent-elles des mourantes étoffes de Liberty et se font-elles faire leur portrait par Burne-Jones? Sont-elles impolues et démoniaques, liliales et putains? Pourquoi les insultes-tu? Tes amours sont-elles insexuelles ou unisexuelles ou animosexuelles? Voyons! Vas-tu chez les trois princesses, Onan, Onanine, Onanineta? Oh, elles m'assomment, elles sont trop maigres. Es-tu un esthète, un intellectuel, un uraniste, un larviste, un déformateur, un satanique, un inassouvi? Une âme, enfin, es-tu une âme? Grâce, grâce! Et l'étranger, ayant fini de m'interroger, conclut en m'adressant un pâle sourire. « Allons, tu commences à me rassurer, et je crois bien maintenant que tu es mon ami. » Sur son invitation cordiale, je consentis à me rasseoir sur le banc près de lui, et je lui demandai « Et toi, qui sais si bien ce que je suis? Ne me diras-tu pas à ton tour qui tu es ?» Alors, baissant les yeux, et d'une voix très basse, comme s'il allait me faire l'aveu d'un crime ou d'une chose honteuse, le vieux homme balbutia « Je suis, ne l'as-tu donc pas deviné? Et pourquoi faut-il que tu me condamnes à cette confession pénible? Je suis Sandro Botticelli. » « Le divin Sandro ? » m'écriai-je, enthousiaste, et me disposant à m'agenouiller devant le Dieu selon les rites de l'extase adorante. Ô troublante et sphinxiale surprise ! Mais il me calma, et sur un ton de très doux et de très affectueux reproche, « Là, tu vois bien, fit-il, et tu n'es pas le sage que tu te vantais d'être. Dès que tu entends prononcer mon nom, tu t'agites, ton âme devient compliquée, mystérieuse et indiciblement perverse comme l'âme de M. Armand Point. J'attendais mieux de toi. » Et il ajouta d'une voix suppliante, « Oh, je t'en prie, ne m'appelle plus Sandro tout court, et surtout, ne me dis pas avec une bouche en cul de poule que je suis le divin Sandro. Si tu es vraiment mon ami, et je veux le croire, ne recommence pas toutes ces folies d'adoration qui me ridiculisent à jamais et me rendent si malheureux dans la mort, plus malheureux, je te le jure, qu'autant, ô rafraîchissant souvenir, qu'autant où, vivant, je faillis mourir de trop de misère et de trop de faim. Et puisque tu as été si bon pour moi, déjà, veux-tu être ce quelqu'un que je cherche et à qui je désirerais tant dire, ah, dire tout ce que j'ai là, sur le cœur, car on a fait de mon nom un étrange et criminel abus. Cela ne peut plus durer ainsi, et il faut enfin que je proteste, une fois pour toutes, contre cette torture qu'est ma gloire et cette permanente affaire qu'est mon immortalité. Et il n'est que temps, appuyai-je virilement. « Allons, parle, ombre admirable, je t'écoute. » Botticelli ramena sur ses chausses en vrille les pans troués de son manteau, et voici comment il parla. « J'ai conscience que je fus un brave homme et un brave artiste, que j'honorais mon métier par mes talents et vertus professionnelles, et que, durant toute mon existence, je n'eus véritablement qu'un culte, qu'une passion, l'amour de la nature et de la vie. Je fis de mon mieux pour en exprimer les immortelles beautés,
à ma façon, qui était de les peindre, et de les peindre comme je les avais plastiquement sentis. Cette passion, unique source de l'art, en dehors de quoi tout est mensonge et stérilité, j'ai la fierté de pouvoir dire qu'elle ne me quitta pas une minute depuis le jour où, très jeune, je fus admis aux leçons de Filippo Lippi, mon maître admirable, jusqu'à celui où, vieillard de 68 ans, je mourus, ayant acquis une notoriété normale que je pouvais avouer, et l'amitié de Laurent de Médicis, un bougre qui s'y connaissait, je t'assure, et à qui M. Maurice Pujot n'eût pu faire la blague des peintres de l'âme. Ça, je t'en réponds. De mon temps, on était tout de même un peu moins mufle qu'on ne l'est du tien. Et nous ne nous laissions pas prendre à tant de mystifications. Quant à moi, je ne fus ni un compliqué, ni un chercheur d'étoiles biscornues, ni un coupeur de lys en quatre, ni un montreur d'âme à deux têtes et d'intellectualité à six pattes, et j'ignorais totalement ce que c'est que les théories. « Tu le sais aujourd'hui, » interrompis-je. « Hélas !» soupira le vieux maître en levant les yeux vers le ciel d'un air accablé. « Je les connais toutes, même celles de M. Ivanhoé Rambosson que n'avait point prévu Walter Scott. » Les théories, vois-tu, c'est la mort de l'art, parce que c'en est l'impuissance avérée. Quand on se sent incapable de créer, selon les lois de la nature et le sens de la vie, il faut bien se donner l'illusion des prétextes et rechercher des excuses. Alors, on invente des théories, des techniques, des écoles, des rythmes. On est mystique, mystico-larviste, mystico-vermicelliste. Est-ce que je sais? Les uns professent que l'art doit être mystico-hyperconique et cabalo-spiroïdal. Les autres, qu'il doit s'affirmer hautement octogone et carrément ellipsoïde. Pour exprimer les âmes et les intellectualités que je t'ai dites, on enseigne qu'il faut mettre le ventre à la place des omoplates, les bras à la place des jambes et la tête nulle part. Des croupes ont fait des ailes des chevelures des ciels d'orage ou des arbres de rêve, et tout cela ressemble à des paquets de macaronis qui pérambulent à travers la marmelade de l'espace. Tiens, l'autre jour, un peintre mourut. Il était de Montmartre. Par erreur, on le conduisit chez nous. Aussitôt, il demanda un boc et se mit à pérorer. Il expliqua que la peinture était l'art des embryogénies, que ce qu'elle devait exprimer, ce n'était pas même la cellule ni le spermatozoaire, qui sont des organismes complets, mais le protoplasma. Lui, il exprimait le protoplasma de la façon suivante. Sur un fond bleu, d'un bleu de limbe, il traçait, en tous les sens, des trajectoires jaunes avec un nucléus au bout. Et l'avantage était, disait-il, que cela figurait aussi bien pour ceux qui ne comprennent pas une nuit d'étoiles, un champ de blé sous la brise, ou le bombardement d'une ville, ou la courbe d'une fièvre typhoïde dans un ouvrage de médecine. « Folie, folie, folie » criai-je. « Non, mon ami, ils ne sont point fous, je t'assure. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Voilà la vérité. Ils singent la folie parce qu'ils pensent qu'il est plus noble de passer pour fou que pour ignorant. Mais ils ne sont pas fous, crois-le bien. Ce sont de pauvres diables. Mais je m'égare. Que te disais-je donc? Que tu ignoras toujours les théories. Ah oui. » Et se recueillant un instant, il continua. « Pour exécuter en beauté une fresque, une statue, un poème ou une paire de bottes, il ne suffit pas d'avoir des dons naturels. Il faut posséder la science de ce que l'on fait. Telle est la théorie. il n'y en a pas d'autre. C'est la science qui nous libère du servilisme des imitations, qui nous donne la personnalité, ce que tu appelles le tempérament, ce que j'appelle moi le style. Or, la science ne s'acquiert que lentement et par le travail acharné. Je travaillais donc, naïf et passionné. Je mis dans le travail tout ce que j'avais de force, de jeunesse, d'enthousiasme, d'amour. Assidu chez mon maître, docile à son merveilleux enseignement, je vis peu à peu, et avec quel éblouissement, le monde des formes s'ouvrir devant moi. Ce qu'avait commencé mon maître, c'est-à-dire l'assouplissement de ma main et l'éducation de mon œil, la nature l'acheva. Je puis dire que je ne regardais qu'elle, que je me baignais véritablement en elle. La vie me fut un perpétuel enseignement et une émulation permanente. Je n'en connus pas d'autre. Ah ! Pour un esprit sensible et visionnaire, quel rêve avec ces déformations, ces lignes brisées et flottantes, ces désordres fiévreux, ces aspects de paysage malade, vaut le spectacle, splendide dessin, robuste et charmant, de cette vie multiple, changeante, toujours harmonieuse à elle-même, où à chaque minute qui sonne, à chaque pas que vous faites, vous vous heurtez à de la beauté. Comment peut-on concevoir qu'il existe des gens assez stupides, assez aveugles, assez brutes, pour aller chercher des inspirations d'art en dehors de la vie directe qui passe sans cesse nouvelle par la ligne de plus en plus riche en trésors d'expressions plastiques et de joie picturale. Ah oui, j'ai regardé la vie avec quelle passion, avec quelle ivresse de jour en jour accrue, mais aussi avec quelle désespérance de me sentir si faible, si petit, pour en fixer, comme je l'aurais voulu, le resplendissement. Oui, j'ai regardé la vie, rien que la vie, et j'ai vu autour de moi de la pureté, de la foi, de l'extase, de la joie, de l'amour, du péché et de la douleur, et toujours et rien que du dessein. Je m'efforçais de rendre les différents aspects des visages humains, non dans leur signification littéraire et psychologique, qui n'est point dans la mission du peintre, mais dans leur expression purement pittoresque et ingénument plastique, du symbole, du rébus mystique, de l'intention intellectuelle, je m'en gardais comme de la peste, comme de la laideur. Et si j'ai apporté quelque chose de nouveau dans mon art, ainsi qu'on veut bien le reconnaître, si je suis arrivé à l'expression de sentiments que la peinture n'avait pas encore exprimés, si j'ai su grouper mes personnages selon des harmonies neuves et donner aux attitudes de mes madones des élégances, des grâces, des inflexions dont on dit qu'elles sont miennes, c'est parce que j'ai serré de plus près la nature et que mon dessin, mieux assoupli, a plus exactement épousé les formes de la vie. Botticelli se tut un instant, mâcha un pétale de rose qui avait volé sur son manteau, et il reprit. « Tout à l'heure, je t'ai parlé injustement de M. Robert de la Cizeranne. C'est qu'il me semblait qu'il avait eu trop de complaisances admiratives envers ces affreux pré-raphaélites. J'avais tort, car voici que je me souviens maintenant de ce qu'il écrivit. Induire l'art plastique à exprimer l'âme humaine, c'est tout simplement le supprimer. C'est évident. Et encore, du moment qu'une peinture est idéographique, elle se condamne à ne plus être hautement esthétique. Excellemment dit. Et enfin, gardons-nous surtout des théories qui donnent à l'artiste une autre mission que celle d'exprimer le beau sans phrase, le beau sans intention, le beau sans apostolat. Rien n'est plus vrai, rien n'est plus conforme à la vraie, à la noble, à la haute pensée de l'art. Et jamais, tu entends, jamais, je n'ai compris le mien autrement. Jamais, je n'ai été ni un littéraire, ni un intellectuel, ni un apôtre. J'ai été un peintre, sans plus. Jusque-là, le vieux maître était resté calme. Tout à coup, il s'anima, sa voix s'enfla en tonnerre, son visage, qui n'exprimait que de la tristesse douce, se rida de grimaces furieuses et il clama, en faisant des gestes désordonnés, « Alors, pourquoi tous les barbouilleurs, tous les gâcheurs de couleurs, tous les symbolistes, pourquoi les mystiques larvoyants et les kabbalistes et les pré-raphaélites et les démoniaques et les embryogénistes, pourquoi tous ceux qui font des vierges putrides, des princesses inassouvies, des amantes insexuées, par suite de quelle folie ? Tous ces ignorants et tous ces fous et tous ces fumistes qui ne savent ni peindre ni dessiner, qui ne savent rien, se réclament-ils de moi ? Par quelle incompréhensible aberration m'adorent-ils ? Car ils m'adorent, ces cuistres ! Je suis leur dieu, une sorte de dieu tour à tour, obscène et angélique, ni homme ni femme, avec des lys bourrant mes plaies et des ostensoirs fumant en guise de sexe. Ils me dressent des autels dans les jardins, dans les parcs, dans les lacs de leur âme. Ma peinture, qui est cependant la négation absolue de la leur, s'érige en religion bizarre, dont les rites se heurtent et se contrarient caricaturalement. Botticelli, Botticelli ! On n'entend que mon nom parmi les fumées, les cris d'adoration, les soupirs d'extase, les rutes forcenées, les plaintes des martyrs. Et dans ces bouches, ce nom ricane comme une bêtise ou grimace comme une saleté. Pourquoi aussi, descendu des ateliers de Montmartre dans les salons des snobs et des salons dans les bouges et des bouges dans la rue, ne suis-je suivi partout que par le cortège satanique des uranistes et des lesbiennes ? Pourquoi les femmes arborent-elles sur leur front le bandeau de mes madones si pures et si tristes ? Pourquoi m'avoir choisi pour mener ce carnaval, moi, plutôt que Ghirlandajo, avec l'énigme qui fleurit aux lèvres de ces vierges, plutôt que le divin Piero della Francesca, dont le charme est si étrange? Est-ce que ces péronnelles n'auraient pu relever leurs cheveux à la manière d'Isotta de Rimini et se couvrir la nuque de sa coiffe de perles? Et Luini, et Filippino Lippi, et Angelico, et jusqu'au vieux Cimabue. Est-ce qu'ils n'auraient pu leur fournir des modèles de coiffure et des rites d'attitude? Pourquoi moi, 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 toujours? Ah, nom de Dieu! J'en ai assez de ma gloire! Je ne veux plus de mon immortalité qui porte le stigmate de toutes ces sottises et de tous ces vices. Qu'on me l'enlève! Je ne veux plus sentir sur moi l'approche de ces lèvres polluées, ni la fétidité de ses baisers, ni surtout l'indélébile encrassement de cette bêtise. Je réclame l'obscurité et le silence. Oh, m'appeler Dagnan Bouvré, ou Horace Vernet, ou n'importe qui, ou ne pas m'appeler du tout. Quel rêve !
Botticelli s'arrêta de parler. Il était haletant. Il appuya sa tête contre ses mains et longtemps, longtemps, il pleura. Et, tandis qu'il pleurait, un bruissement qui bientôt devint une musique emplit le bois de ses ineffables sonorités. Et tout chanta, les fleurs, les insectes et les oiseaux. Et il disait : « Que t'importe, puisque nous t'aimons,
nous qui sommes les fleurs parfumées, les beaux insectes aux ailes d'or, les oiseaux musiciens. Ce dont tu pleures passera, comme tout passe, de ce qui est vain et méchant. Et il ne restera de ta mémoire si pure, à travers les âges, que l'enchantement de notre amour, parce que, plus qu'aucun autre, en des œuvres immortelles, tu auras aimé, célébré la vie adorable et l'éternelle beauté qui ne change pas. Le Journal, 4-11 octobre 1896.